Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 71e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actu, une actu qu'on sélectionne avec brio, j'allais dire, avec mon ami CAF.
Oui, bonjour Vasquez. Avec brio, ça me plaît, ouais, non, on est très brio, non.
Voilà, en gros, c'est notre sélection de l'actu, donc c'est pas forcément tous les derniers trucs qui sont sortis cette semaine, mais c'est les trucs qu'on a jugés importants ou en tout cas dont on voulait vous parler. Et je vois qu'on a une grosse conduite cette semaine, donc on va y aller tout de suite, on va pas traîner. Et on va commencer par le gaming avec Brawler Stars.
Ça va aller vite, hein, parce que nous avons un gros tunnel gaming, jeu mobile. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui t'arrive?
Il est possible que j'ai acheté un device avec une pomme dessus, très puissant, qui me motive à tester des choses diverses et variées. Donc voilà. Et puis surtout, sur PC, je suis en train de poncer Destiny 2 comme une espèce de drogué junkie. Donc, j'ai pas vu grand-chose en vrai. Donc, je m'excuse, pardon. Non. Blague à part, Brawler Stars, pourquoi on en parle? Parce que c'est une grosse sortie, oui ça existe, les grosses sorties mobiles, parce que c'est fait par Supercell. Alors Supercell, vous allez me dire, mais c'est qui? En fait Supercell c'est les mecs de Clash Royale, c'est les mecs de Clash of Clans, des jeux qui cartonnent à chaque fois, et surtout ce sont les champions pour faire des trucs à la Blizzard, bonne époque, hein, pas à la Blizzard Activision, à savoir développer des jeux, les tester, ils font ce qu'on appelle des soft launch dans des pays qu'ils annoncent, enfin... dont ils dévoilent pas les noms, et les gens voient des trucs popper et puis ils regardent comment ça marche. Et si les gens n'aiment pas le jeu ou les retours sont pas bons ou etc, et ben ils dégagent le truc tout bêtement. Et c'est ce qui a failli se passer pour Brawler Stars. Alors Brawler Stars, c'est un jeu qui est donc sur iOS et Android et qui est testé, je crois, depuis 2017 au Canada. Et qui a failli être fusillé dans l'arrière-cour en mode genre bon les gens n'en veulent pas, ça ne sert à rien, et puis en fait les mecs se sont dit ah, il y a peut-être un truc à faire quand même, donc on va bosser, et ils ont travaillé pour reprendre en main tout ce qui n'allait pas au niveau de l'interface, du gameplay, etc, et ils en ont fait un petit jeu qui est assez éloigné de ce qu'ils font habituellement, hein. Tu vois, ils aiment bien les trucs un peu stratégie, etc, avec un petit peu de réflexion, là c'est beaucoup plus action, et tant mieux. Parce que c'est le même niveau de j'ai peaufinage de ce qu'ils font d'habitude, et c'est vraiment bien fichu. Alors attention, on est d'accord que ça reste un jeu mobile avec de la shine up, des pubs pour te forcément faire des points, acheter des cristaux, mes genoux, machin. Enfin bon, hein, ça malheureusement c'est le monde dans lequel on vit que nous n'avons pas choisi. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe. L'avantage c'est que il y a rien qui vous met le couteau sous la gorge. On peut vraiment jouer en mode détente sans se prendre la tête. Qu'est-ce que c'est que ce putain de jeu, donc? CAF, enfin, tu allais me demander ça, je suis certain.
Oui, peut-être pas en ces termes-là, mais effectivement, je te mettrai un petit « Ay caramba » de notre ami Craig.
« Ay caramba !»
Craig, revient à la télé, s'il te plaît. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des petites équipes de 3 versus 3 sur un des modes de jeu, parce qu'en fait, c'est plein de jeux différents dans lesquels on va diriger un personnage avec un petit stick virtuel à gauche, et on va diriger les tirs avec un stick virtuel à droite, et un autre petit bouton qui sert toujours à droite, qui sert à déclencher les ultis, et c'est tout. Donc au niveau manipulation, c'est relativement simple et ça passe bien sur un écran tactile. Et dans un des modes de jeu, il faut aller récupérer des gemmes et exploser l'équipe d'en face. Donc en fait, c'est de la baston. On peut débloquer de plus en plus de persos pour avoir avec des pouvoirs de plus en plus pétés, de plus en plus compliqués à gérer. Donc le premier personnage, tu vois, c'est juste un gun qui l'ulti, c'est juste un gros coup de shotgun en espèce de cône, et c'est tout. Histoire de vraiment vous mettre dans l'ambiance et d'avoir un truc qui soit pas difficile à prendre en main. Et vous allez avoir après des magiciens qui lobent des boules de feu, donc il faut commencer à être un peu plus malin, mais par contre il peut lober les boules de feu par-dessus les obstacles de la map, etc. Donc au niveau stratégie, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais évidemment, il y a un mode qui est le mode supérieur, on va dire, de ce jeu, qui est le mode showdown. Et le mode showdown, c'est quoi? C'est un putain de battle royale, les amis.
Bah tiens.
Bah oui, attends.
C'est du jamais vu.
On est en 2018 ou quoi? Donc évidemment, le mode showdown, c'est du, c'est 10 joueurs sur une map et il doit en rester un seul. L'avantage, c'est que ça fait des parties qui durent entre 2 et 3, voire 5 minutes, si vraiment, 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 il y en a un qui a décidé d'être chiant. Mais en fait, je crois que c'est impossible. Il y a du gaz, en fait, comme dans un battle royale classique, qui va rétrécir la map très, très très rapidement. Vous récupérez des cristaux, votre perso devient de plus en plus fort, et évidemment, il faut prendre des risques dès le départ. Sinon, bah, vous avez aucune chance en vous planquant de buter le dernier qui aura pris ses cristaux. Les cristaux, c'est pas juste des points, ça va booster ses points de vie et sa force d'attaque. Donc, n'essayez même pas de camper dans des buissons, parce qu'évidemment, on peut se planquer dans des buissons un peu à la League of Legends, donc ton perso disparaît, les autres mecs peuvent pas le voir. Mais la stratégie n'est pas vraiment à l'ordre du jeu. Il vaut mieux être, enfin, si, il y a un petit côté stratégique, mais il faut surtout être malin et un peu ballsy pour aller choper les cristaux dès le début. Bref, si vos gamins veulent y jouer, bah, essayez de leur piquer, parce qu'en fait, c'est pas mal du tout, vous allez voir. Vous risquez d'être surpris. Et c'est toujours avec un design hyper soigné, parce que, les mecs de Supercell, au niveau vraiment finition de leur jeu, c'est du gros boulot. Donc installez ça, ça coûte zéro. Évidemment, si vous ne tombez pas dans le côté pay to play, non, en fait ça va. Franchement, dans les jeux du genre, c'est pas celui qui va agresser le plus de votre porte-monnaie, parce que j'ai quelques clients dont je vais parler après qui, eux, en revanche, vont prendre des gros taquets. Voilà.
On va parler d'ailleurs de Command and Conquer, le retour du titre légendaire de Westwood. Westwood Electronic Arts, je sais plus qui avait pris le relais finalement.
Je ne sais pas, mais en tout cas là, ils ont pris le relais de l'argent. Oui. Parce qu'il est sous-titré donc Command and Conquer Rivals. Alors lui, pour le coup, c'est un Clash Royale-like.
Rivals.
Je suis désolé. Je vous aurais bien mis un petit effet là, mais ça va l'énerver, Fasquia. C'est un excellent titre de stratégie. Le cœur du gameplay est bien réalisé, donc on est dans le Clash Royale-like avec une map assez simple. Le but du jeu, en fait, c'est de prendre des zones pour faire décoller un missile nucléaire et péter la base adverse. Pour ce faire, on va développer sa base, on va aller miner du tibérium, rappelez-vous,
oui.
Et on va récupérer de la monnaie pour pouvoir faire des soldats avec des mitraillettes, des soldats avec des lance-roquettes, etc. Et on se retrouve dans le pierre-feuille-ciseau classique de ce genre de jeu. Si le mec en face commence à faire des jeeps, vous allez sortir vos petits soldats avec les lance-roquettes et les jeeps, elles vont dégager, etc. En revanche, les jeeps avec des mitrailleuses font assez mal à certains autres soldats. Enfin bref, vous voyez l'idée. Ça monte assez vite, il y a plein d'unités différentes, et comme dans Clash Royale, il faut faire des decks, parce que toutes ces unités, on les débloque au fur et à mesure en jouant, et on récupère donc des cartes, et on va pouvoir avoir comme ça ses propres stratégies, vu qu'on peut choisir un nombre d'unités limité pour avant de lancer une partie. Alors au début, on apprend le jeu, donc on n'est pas limité, on a très peu d'unités pour apprendre les bases, et au bout d'un moment, c'est là où la partie stratégique devient hyper intéressante. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt joli, les parties vont vite, il y a vraiment beaucoup de monde qui joue, donc on attend vraiment pas longtemps pour jouer. D'ailleurs, dans Brawler Stars, pareil, pour trouver 10 joueurs, ça prend une seconde. Mais en revanche, là où ça devient moins drôle, c'est que c'est vraiment, vraiment relou au niveau microtransactions. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de dépenser du fric pour jouer, mais ils ont vraiment mis le côté microtransactions ultra en avant. C'est-à-dire que oui, on peut s'en passer vraiment, vraiment. Mais en revanche, au niveau de l'interface, dès que vous débloquez un truc, c'est là genre, hey, t'es sûr, t'en veux pas, t'es
sûr. Ouais, le truc bien pénible.
Ah, mais c'est le dealer au coin de la rue un peu malfamé qui te lâche pas et qui est gentil, mais un peu pressant, tu vois. Donc, c'est vraiment super chiant et ils auraient pu se calmer là-dessus. Alors, évidemment, ils sont là pour faire du fric et le jeu est gratuit à la base, donc ils sont là pour essayer de vous vendre du truc. C'est dommage parce que le jeu aurait gagné à être un peu plus calme là-dessus. Maintenant, si vous voulez dépenser de l'argent, vous savez où est le menu. Il n'y a pas besoin de vous le mettre sous le nez toutes les 3 secondes. Donc voilà. En revanche, c'est à tester parce que si vous êtes nostalgique du truc, comme on n'est pas prêt d'en avoir un nouveau sur PC, j'ai l'impression qu'il va falloir se contenter de ça.
Islands of Nine, même. Il y en a plusieurs. Hein. C'est un jeu qui vient de mourir. Super.
Oui. Adieu. Vous vous rappelez les Battle Royale, tout ça. Là, ouais. Voilà. Il va en rester qu'un aussi chez les jeux de Battle Royale, tu vois. C'est la guerre aussi chez eux. C'était un Battle Royale qui a pas vraiment fait beaucoup parler de lui. Il est passé. Il a eu son heure de gloire en stream, en early access. Mais finalement, là, il va passer gratos et les serveurs vont rester ouverts avant de mourir de leur belle mort, parce que le studio qui s'occupe de ça, qui est un petit studio dont le nom m'échappe et que je n'ai pas noté parce que je fais pas bien mon travail.
Mais ça rembourse le Patreon.
Mais ils vont peut-être mourir aussi. Enfin, tu vois, ça sert à rien d'encombrer les neurones. Oh, je suis vache. Non, franchement, c'était un titre qui était mal né dans le sens où on en avait parlé déjà dans le podcast vite fait, qui voulait faire du Battle Royale futuriste, hyper axé e-sport, etc. Mais finalement, ils ont mis des armes qui n'avaient aucun feeling intéressant par rapport à ce qui existait déjà. Et du coup, la mayonnaise n'a pas pris, malgré le fait qu'il ne soit pas très cher, etc. Et il y a tellement de titres sur le marché, et comme maintenant tout le monde et sa grand-mère fait un Battle Royale, bon bah là, c'est un petit peu compliqué de concentrer la population. Et si vous êtes pas PUBG ou Fortnite en ce moment, c'est un peu dur, même du côté d'un notre ami Blackout, c'est un peu compliqué des fois pour remplir les serveurs à certaines heures. Donc voilà, c'est le premier qui passe l'arme à gauche, et à mon avis c'est loin d'être le dernier.
Et puis le jeu suivant, j'en ai beaucoup entendu parler cette semaine, notamment via notre ami Gotose, Gris. Alors c'est quoi en fait? Parce que j'ai pas du tout eu l'occasion de regarder.
C'est une expérience.
En général, quand ça me dit ça, c'est là où je tourne les talons. Hein, donc
C'est une expérience. Ouais, oui, justement. Alors, je voulais en parler vite fait. J'y ai très, très peu joué. Je voulais vous dire que c'était sorti. Comme ça, je vous dis qu'il y a le lien du test de Gotose, pub, sur l'excellent Game Cult, qui est en lien dans le billet du podcast, que vous pouvez aller lire si vous êtes abonné. Je suis désolé, je crois que c'est comme ça que ça marche maintenant.
Oui.
Gris, c'est un jeu qui est sorti sur PC, Switch, Mac, qui est un petit jeu indé, qui est effectivement, pourquoi je dis une expérience, parce que ça se torche en 3 heures. Et j'ai un copain qui m'a envoyé un DM en disant « je dois le prendre, mais c'est beau et chiant ou c'est beau et intéressant ?» et c'est une question que je ne peux pas résoudre pour vous, parce que oui, ça peut totalement rentrer dans votre catégorie beau et chiant, dans le sens où c'est très posé, c'est un jeu qui... c'est des tableaux en fait, hein, c'est super joli, c'est un jeu de plateforme, hein, vu sur le côté, etc. Mais en fait, ça évolue sans arrêt, la caméra en fait joue avec vous, le background en fait fait partie vraiment du jeu, la bande son fait partie du jeu, c'est pour ça que je dis que c'est une expérience. Donc soit vous rentrez dans le délire et vous vous éclatez avec ces petites énigmes. Alors, il y a un peu de plateforme, il y a un peu de phase Mario rigolote, mais qui servent aussi à résoudre certaines énigmes. Quand l'héroïne saute, elle peut transformer sa robe en espèce de cube de béton qui va la faire retomber plus fort, par exemple, pour écraser des ennemis, etc. Mais en termes, si vous aimez, je sais pas moi, Enter the Gungeon ou des jeux hyper violents comme ça, enfin violents, hyper rapides, Non, ça va pas le faire pour vous, puisque c'est vraiment un titre contemplatif un petit peu, et qui peut être très très lent dans certains actes du jeu. Donc je peux pas vous dire si c'est beau et chiant ou beau et fabuleux. Ça va vraiment dépendre de votre sensibilité. Maintenant, ça coûte 20 balles. Voilà,
vous pouvez. Ça se tente,
et puis si vraiment vous êtes intrigué, mais que 20€ c'est trop cher pour être intrigué, vous ne le achetez pas, vous attendez une promo, et puis voilà, c'est tout.
On revient sur le mobile avec Civilization 6 pour iOS en promo.
Voilà, alors ça c'est un jeu qui est sorti un petit moment déjà, je voulais juste dire qu'il est en grosse promo effectivement à 17€ jusqu'au 1er janvier. Et pourquoi c'est 17€? Un jeu iOS en promo à 17€, mais il vaut combien d'habitude? Le pack est plutôt du côté des 65-80€. Hein.
Ah oui, quand même.
C'est Civilization 6.
Oui. Bah oui.
Sur mobile, donc c'est extrêmement bien fait. Ne négligez pas le jeu en vous disant oui c'est la version mobile donc elle est moins bien. C'est juste un des meilleurs jeux iPad de la terre. Il y a une version iPhone maintenant qui marche très bien, et quand vous payez vous avez donc un jeu qui fonctionne sur les deux devices. Et il y a effectivement en plus, et c'est vraiment, ils sont très gourmands, il y a des DLC payants, oui je sais, mais c'est comme dans les civilisations classiques où il y a des extensions avec des civilisations différentes. C'est pareil, ça coûte à chaque fois autour de 5€, mais il y en a un gratos qui change toutes les 48 heures en ce moment. Donc si vous aimez le truc, c'est le moment d'ouvrir la page et de faire des refresh et d'aller récupérer tout ça. Si vous vous êtes dit que c'était beaucoup trop cher à l'époque, c'est le moment d'aller l'acheter, parce qu'à mon avis il descendra pas vraiment à moins cher avant un grand moment. Et 17€ pour un civilisation complet qui est vraiment toujours aussi bien si vous aimez le genre, hein, je veux dire c'est une des références, il n'y a pas à tortiller, foncez, c'est maintenant.
Et puis on termine cette section de gaming avec une annonce du retour des Lemmings, hein. Mais pourquoi?
C'est énorme. Alors ça m'a fait marrer, sur tout ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est annoncé. Oui, si tu m'étonnes. Je vous donne pas la date, hein, parce que c'est sorti sur Amiga, donc l'Amiga n'a pas 30 ans, tout va bien. Ça va bien se passer, détendez-vous. Ce qui m'a fait rire, c'est que c'est annoncé sur le PlayStation blog, ce qui a fait hurler les fans de PlayStation, justement. Pourquoi vous nous parlez de ça? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui sort sur iOS et Android. Il faut savoir que Sony, en fait, a les droits depuis un moment, et ils ont enfin décidé d'en faire quelque chose. Sauf que du coup, ils nous ont sorti un titre qui est vraiment super mignon. C'est super bien fait, le gameplay a l'air ultra bien chiadé. J'ai pas joué longtemps, hein. J'ai vraiment essayé juste avant de faire le podcast. Je me suis dit, super bonne idée, design de la mort et tout. Et après, j'ai vérifié les commentaires et tout ça. Et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, tu vois, je râlais tout à l'heure en disant bon, Command & Conquer Rivals, les mecs se te font un peu chier avec des trucs oui, voilà, acheter nos cristaux, blablabla. Bon, là, c'est vraiment toutes les deux secondes et en fait, t'es carrément bloqué dans le jeu quand tu n'as plus d'énergie. Et l'énergie te sert à mettre les items, genre les parapluies, les escaliers, etc., pour sauver les lemmings. Donc, tu ne peux plus jouer si tu payes pas au bout d'un moment, d'après ce que j'ai compris. Donc, on n'est même pas dans le pay to win, on est dans le pay to play. Donc là, pay to play, je dis non. Alors j'espère qu'ils vont se calmer ou voilà, j'ai pas bien vu quels étaient leurs plans à terme. Mais d'un côté, le jeu est super mignon, super bien fait, direction artistique ultra réussie, jeu qui exploite vachement bien le côté vertical de nos mobiles. Mais voilà, système d'énergie tout pourri. Donc je vous conseille d'essayer et de jeter. Voilà.
Voilà. Pay to play, c'est de la merde, comme dirait Jean-Pierre.
Exactement.
C'est de la merde.
Allez, on passe du côté des apps. Est-ce que tu veux que j'attaque comme ça, tu peux souffler un petit peu?
J'étais en train de boire de la flotte.
Ok, très bien. Donc, on va partir sur FL Studio. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent sur Geekzone. Et ça, c'est un reproche que je me fais à moi-même. Parce que on a Reaper d'un côté, on a Ableton Live, et puis on a les ténors du côté Mac avec Logic notamment. Et puis, on oublie parfois un petit peu que depuis quelques versions, FL Studio, autrefois Fruity Loops, est devenu un concurrent vraiment très, très sérieux dans l'univers des DAW, donc des Digital Audio Workstation. Alors d'abord, petit cocorico, parce qu'on rappelle que c'est un soft belge, donc voilà, c'est un petit peu une fierté nationale.
Et ça fait cocorico en Belgique?
Ouais, ça fait cocorico si on veut, voilà. Je sais même plus ce qu'on a comme animal en Belgique.
Tiens, alors maintenant, il va falloir que tu reprennes les bases.
Si c'est une vache, je suis mal en fait.
Me, super.
C'est ça. Donc à la base, FL Studio, ça s'appelait donc Fruity Loops, comme je l'ai dit, c'était plutôt un jouet en fait, un gadget qui était basé sur l'utilisation de loops, d'où son nom, mais qui, depuis quelques versions, est devenu vraiment très, très sérieux. On est passé en fait de la V12 à la V20, et ça j'en avais parlé sur Geekzone. Pour les 20 ans, en fait, ils ont décidé carrément de skipper la version 13, 14 et toute la suite. Ils sont passés directement à la version 20. C'était il y a quelques mois, et puis bah voilà, là on a la première grosse mise à jour depuis, qui est la 20.1, qui est sortie il y a une dizaine de jours. Alors je rappelle pour ceux qui l'avaient oublié que depuis la version 20, le soft est enfin disponible en natif Mac. C'était pas le cas avant, en fait, pour le faire tourner sur Mac, il fallait ruser un peu. Il n'existait que sur PC, il existe maintenant sur les deux plateformes, donc ça c'est plutôt cool. Parmi les trucs importants qu'il y a dans cette nouveauté, je vais vous la faire bref, parce qu'en fait il y en a un paquet, il y a une vidéo officielle qui présente les nouveautés qui dure 12 minutes, donc ça va, il y a un paquet de trucs qui ont changé. Je vous la linkerai pour que vous puissiez aller la voir. Moi, les trucs qui m'ont marqué, c'est l'ajout d'un visualiseur. Souviens-toi, dans Winamp, on avait ces petits trucs qui généraient des images et tout.
Ah,
bah là, ils en ont intégré un dans le soft. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est plutôt puissant. Il est basé, en fait, sur un moteur de jeu qui s'appelle le Z-Game Editor et qui permet, en fait, en gros, de faire des vidéos pour tes morceaux avec des effets des effets graphiques, de la titraille, des trucs comme ça. Donc, si, par exemple, tu viens de pondre un super track et que tu veux le mettre sur YouTube, tu peux faire ta vidéo directement dans le soft avec un truc plutôt balèze, avec des paramétrages dans tous les sens. Donc le Z-Game Editor plugin ou visualiseur, je sais plus comment ils appellent ça. Donc ça, c'est plutôt cool. À noter aussi pour les amateurs, ça te parlera pas du tout, mais le retour donc des boucles dans le mode Step Sequencer, donc ça avait disparu à la version 11, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, et puis là ils l'ont remis avec des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est le truc qui te permet de boucler en fait dans le Step Sequencer et qui va te permettre maintenant même de boucler avec des différences de signature. Donc en gros, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des polyrythmies, donc des rythmes, par exemple tu peux avoir ta caisse claire qui va être sur une rythmique, sur un tempo, l'autre qui va être sur un autre tempo, et ça va te faire des trucs un peu décalés, un peu organiques. On sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la musique expérimentale qui cherchent ce genre d'outils, donc encore une fois, Fruity Loops étend son spectre, et ça c'est plutôt cool. Pas mal d'améliorations aussi du côté de l'enregistrement audio, donc un paquet de nouveautés, je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui traite de tout ça, je vous la linkerai. On rappelle le prix très vite, c'est quand même pas très très cher, c'est 189€ pour la version complète. Il y a une version moins chère qui s'appelle la version Fruity, qui est à 89€, mais qui permet pas vraiment d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du soft. Et puis après, derrière, pour ceux qui ont vraiment de la thune, il y a les déclinaisons avec la version complète, plus des plugins. Il y a la version signature à 289€, et puis la grosse mouse version qui s'appelle la All Plugins Bundle à 826€. Mais là, il faut déjà avoir les moyens. Cela dit, c'est livré avec plein de plugins VST, quand même relativement connus et relativement intéressants, donc ça vaut peut-être le coup si vous n'avez pas encore de soft et que vous cherchez à investir. Je vous linkerai tout ça donc dans le billet qui accompagne ce podcast, et puis on va devrait passer du côté d'iOS de nouveau pour parler des apps, non?
Non, il faut que je t'excuse auprès de tous les gens qu'on n'a rien à foutre des dos et de leur dire que c'est pas grave si vous aimez pas la musique et si vous en faites pas. Parce que, en fait, il faut savoir que ce soft est génial parce que c'est ce qu'utilise Ronald Jenkins. Et Ronald Jenkins,
c'est vrai.
C'est le dieu du synthé. Et j'ai fait plein de posts sur lui, sur Cavezone à l'époque, et ils sont toujours dispo sur Cavezone. Ouais. Et allez voir comment ça sonne et vous allez vous dire, je vais aller voir ce petit soft, ça a pas l'air nul.
Voilà. Et on passe donc, comme je le disais avant que tu m'interrompes, au reste des apps pour parler donc de Linéa 2.5 sur iOS.
Ça va être vite fait parce que c'est un truc de graphisme et donc de dessin et vous savez à quel point je suis hyper doué dans ce secteur. Mais justement, je voulais en parler parce que c'est un truc extraordinaire pour les handicapés comme moi. Donc c'est un soft qui existe en deux versions. Malheureusement, c'est pas une app qui fonctionne sur iPad et iPhone. Il faut choisir sa version. Il y a Linéa Sketch for iPad ou Linéa Go for iPhone. Donc évidemment, on fait rarement du goût du dessin longtemps sur son iPhone, donc je vous conseille quand même, si vous avez un iPad, de prendre la version iPad. Et pourquoi c'est génial? Parce qu'en fait, ils ont une fonctionnalité pour les gens qui savent pas tirer un trait droit comme moi quand ils font un schéma, qui est absolument extraordinaire, qui est en fait un truc qui s'appelle Zip Shape. Donc tu fais un truc qui ressemble vaguement à un rond, et hop, ça va devenir un rond parfait, que D'accord. tu peux après retravailler derrière pour en faire un ovale, whatever. Exactement pareil, de la même manière, tu peux faire une ligne droite parfaite, un carré, etc. Et du coup, plein de gens ne l'utilisent pas du tout pour dessiner, parce qu'il est vachement plus limité que d'autres trucs comme Procreate, etc. Après, c'est pas le même prix, hein. Mais ils l'utilisent pour faire des petits diagrammes, des schémas, etc. Puisque du coup, ça devient hyper simple de faire un truc ultra propre, très très facilement. Parce que c'est vraiment une fonctionnalité que je connais pas ailleurs, d'ailleurs, et qui est ultra bien fichue. Donc, je vous conseille d'essayer ça. En revanche, je voulais débattre derrière sur la problématique des interfaces mobiles, puisque il y a des problématiques sur ce genre de soft qui est le undo. Donc, pour revenir en arrière sur une connerie que tu viens de faire. Et il y a plein de soft qui n'intègrent pas les paramètres, enfin les trucs classiques normaux d'iOS. Il faut savoir qu'une des façons de faire un undo sur iOS, personne ne la connaît en fait. Il faut secouer son téléphone. C'est-à-dire que vous venez d'effacer une ligne dans votre texte alors que vous venez de niquer tout un message que vous venez de taper parce que vous avez fait une fausse manip. Si vous secouez le téléphone, vous allez revenir en fait et ça va annuler la dernière action. Mais il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe, ce truc-là. Et de la même manière, il y a d'autres solution et c'est toujours assez mal fait, donc je pense qu'on fera une partie spécifique un jour, mais là on est un peu trop pressé, donc juste aller essayer Linéa 2.5, c'est assez sympa.
Allez, on passe du côté de la culture en vitesse pour vous parler de la sortie du premier trailer de Men in Black International. Est-ce que tu avais entendu parler du projet ou pas du tout?
Ouais, si, j'avais, alors vite fait, mais j'avais pas suivi qui faisait quoi, qui avait été casté, etc.
Voilà, donc c'est un spin-off, c'est pas vraiment le quatrième épisode, c'est plus présenté comme un spin-off de la franchise Men in Black, donc franchise de Barry Sonnenfeld avec Will Smith, etc. Cet épisode-ci est réalisé par F. Gary Gray, à qui on doit déjà de Italian Job,
beaucoup aimé.
Voilà, que moi aussi j'avais beaucoup aimé. Straight Outta Compton, et puis Fate of the Furious, le 8e, Fast and Furious, donc, le monsieur a déjà, disons, fait ses armes sur les blockbusters. C'est scénarisé par Art Marcum et Matt Holloway, qui sont un duo de scénaristes qui ont pas beaucoup bossé, en fait, ces 15 dernières années. Ils ont fait des trucs très bien comme des trucs très mauvais. donc c'est, voilà, qui ne rassure pas. Ils ont bossé notamment sur le premier Iron Man, hein. Ils font partie de ces nombreux scénaristes qui ont bossé sur le premier Iron Man. Je vous rappelle qu'il y en avait quand même un paquet, ils étaient pas que deux. Ils ont bossé aussi sur Punisher Warzone, qui est a priori le meilleur film Punisher. Moi, il faudrait que je le revoie pour pouvoir juger. Mais ils ont aussi bossé sur Transformers The Last Night, donc voilà, qui ne me rassure guère. Et puis pour le reste, ils n'ont pas fait d'autres films. Le pitch est quand même assez sympa, je dois dire. C'est en gros une équipe londonienne de Men in Black, donc on quitte les États-Unis pour aller à Londres et qui va enquêter donc sur un meurtre qui va bien évidemment révéler que l'univers tout entier est en danger. Là où ça m'intéresse, c'est que du côté du casting, c'est plutôt sympa. On en parlait tout à l'heure en antenne, donc on a Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Et tu me faisais remarquer à juste titre que on est un peu dans le même casting du Ragnarok en fait.
C'est exactement le même duo.
Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Y a aussi Liam Neeson, Kumail Nanjiani et Matt Thompson qui reprend son rôle du troisième film. Donc voilà, le premier trailer est sorti, on va vous le linker, vous irez vous faire votre avis par vous-même. Et je rappelle que ça sort quand même, non pas tout de suite, ce sera en juin 2019. On a encore le temps de bouffer du trailer d'ici là, je pense. Et puis je voulais faire une petite news très rapidement pour vous donner des nouvelles du film Uncharted, le projet maudit de Sony. Sony, puisque là, en fait, on vient d'apprendre que Sean Levy, qui était le quatrième réalisateur qui avait été embauché pour bosser sur le projet, qui est le monsieur qui a notamment bossé sur la série The Night at the Museum et aussi sur la série télé Stranger Things, eh ben, c'est le quatrième réalisateur à se barrer du projet. Donc voilà, le projet de nouveau, comme
ça
ils disent dans
bien.
Le voilà, comme on dit dans le milieu, le projet de nouveau dans le limbo. A priori, c'est toujours Tom Holland qui est casté pour jouer donc un Nathan Drake jeune, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Et donc bah, voilà, apparemment, ça a pas l'air facile de monter ce film Uncharted. Je voulais vous tenir au courant pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avais déjà oublié que ça existait.
Non, mais on s'en fout. De toute façon, Nathan Fillion a fait sa version de 15 minutes. Ça suffit largement.
Voilà, c'est vrai en plus. Ouais.
En plus, toi, ta vie, ouais, Uncharted a perdu son réalisateur, mais il a perdu son réel aussi parce que dans la conduite, il a marqué Uncharted le film. Moi, ça m'a fait rire. Et je pense que ça a fait rire deux auditeurs. Donc voilà, je vous le dis.
On passe du côté de la tech. Décidément, j'en prends plein mon grade aujourd'hui. On passe du côté de la tech pour parler d'un papier du New York Times qui est sorti mercredi. Un papier qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Alors, on va essayer de tirer le vrai du faux de tout ce qui a été présenté, qui a été parfois relayé de manière un peu approximative. Bienvenue sur Internet. En gros, c'est un gros dossier du New York Times qui se base donc sur des documents officiels de Facebook et qui semblerait indiquer qu'en gros, Facebook aurait signer des contrats secrets avec les grands de la tech, enfin pas qu'avec les grands de la tech, en gros avec
beaucoup de monde,
150 sociétés au total, mais dont les grands de la tech, notamment Amazon, Netflix, Microsoft et Spotify, sont les quatre qui sont surtout pointés. Et en gros, c'est ensuite des accords classiques donc qui passent avec ces entreprises pour permettre d'avoir accès à certaines données, etc. Là, il y aurait eu des accords supplémentaires secrets qui leur permettaient, par exemple à Bing de voir votre liste d'amis, à Netflix, à Spotify de lire vos messages privés, Amazon de obtenir les vrais noms et les informations de vos contacts, à Yahoo de lire le flux de vos amis et tout ça de manière bien évidemment pas du tout annoncée, parce qu'on sait que la base du truc, c'est de demander aux utilisateurs s'ils sont d'accord de partager leurs données, ce qui est la base de ces accords normalement. Et puis là, les accords secrets, eux par contre, ils s'en foutent un peu, ils demandent pas l'avis de l'utilisateur et ils partagent des trucs sans leur signaler. Alors on a parlé d'Apple aussi, c'est un peu différent du côté d'Apple, parce que les documents du New York Times, le rapport du New York Times en tout cas, explique qu'en gros, du côté de chez Apple, ce qui se passerait, c'est que Facebook aurait réussi à masquer en fait les demandes d'autorisation pour certains partages, et que donc a priori, quand tu désactives le partage des informations personnelles, il en partage quand même malgré tout. Alors Apple dit oui, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas possible. Donc là, il faudra tirer un peu aussi dans les jours qui viennent, il faudra un peu faire le tri là-dedans. Mais j'imagine que si Apple dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible.
Parce que c'est facile à vérifier en fait. Hein,
donc, oui, en plus voilà. Donc, mais pour le coup, ça reste quand même malgré tout un gros dossier. Alors ça va bien évidemment à l'encontre d'un accord qu'avait passé Facebook avec la FTC en 2011, si je dis pas de bêtises, où en gros il disait que il s'engageait à ne pas partager justement des données personnelles sans l'accord explicite des utilisateurs. Donc ça, c'est un petit peu compliqué pour Facebook, et puis surtout ça se passe à une période où Facebook déjà est quand même un peu sous le feu des projecteurs, et pas pour les bonnes raisons, notamment depuis l'affaire Cambridge Analytica. Alors ils ont beau essayer de dire qu'ils sont en train de mettre de l'ordre chez eux, de ranger un peu la maison, de faire un peu le tri dans tout ça, c'est un truc qui vient encore se rajouter à ce qu'on peut déjà leur reprocher jusqu'ici. Il y a plein de papiers qui ont relayé le truc. J'ai fait une petite sélection de papiers qui me semblaient les plus sérieux, et je vous les linkerai, dont le papier évidemment du New York Times qui explique un peu tout ça. On parlait de Netflix et de Spotify tout à l'heure. Eux ont déjà démenti officiellement, avec plusieurs variantes de démenti, où en gros, d'un côté on nous dit nous on a fait que respecter les engagements qu'on a pris avec Facebook, où on essaie de vous faire croire qu'en gros ils ont essayé de s'en servir, ils ont fait des essais, puis ça marche pas très bien, alors du coup ils ont arrêté. Ça, je demande quand même à voir, ça m'a l'air un peu suspect comme répartie. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, vas-y.
Je voulais rajouter un truc, parce qu'en fait il y a un problème sur le papier du New York Times, enfin il y a un problème sur tous ces papiers là c'est que les mecs oublient de dire en fait que ça concerne les mecs sont pas en train d'aller voir vos messages dans une petite interface pour aller voir avec qui vous avez écrit. C'est en fait lié à tout le système d'API qui permettait aux applications de se brancher sur Facebook. Et du coup, c'est uniquement dans plein de cas, par exemple dans Spotify, c'était pour partager le truc que vous êtes en train d'écouter,
par exemple.
Donc vous aviez un bouton pour balancer, tiens, je suis en train d'écouter ça sur Facebook, blame. Et ça, c'est et donc il y a plein de variantes de genre de service. Quand aujourd'hui on est en train de râler, les community managers de la planète entière sont en train de pleurer parce qu'on peut plus programmer un message sur Facebook sans passer par le site Facebook, etc. C'est en réponse à tous ces trucs-là aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste pour vous obliger à aller sur le site, parce que fondamentalement, ils en ont rien à foutre. C'est parce que maintenant, ils se sont fait tellement taper dessus et ils veulent plus ouvrir les vannes comme avant. Et du coup, bah, c'est un peu aussi le retour de manivelle. Donc, il y a, alors, on n'est pas dans le bullshitage, genre le papier de Bloomberg sur les puces, espions à la con, qui d'ailleurs, ils sont jamais excusés et ils ont toujours pas viré le mec. C'est un scandale. Bref, c'est un autre sujet. Il y a un fond de vérité, évidemment, qu'il y a un problème et surtout, par ces API, il y a eu des exploitations faites derrière, possiblement par certains acteurs, salut Cambridge Analytica, qui n'étaient pas prévues, mais dans les faits, à la base, c'était pas, il n'y avait pas non plus tout le temps, en tout cas, j'ai envie de dire, évidemment qu'il y en a certains qui devaient être mal intentionnés, mais le but premier, c'était du service tout connement, c'était d'intégrer l'application dans d'autres applications, dans d'autres services, pour partager des informations, etc. Et maintenant, quand on peut pas le faire, tu te retrouves avec des gens qui font genre, pourquoi je peux pas faire ça? Bah, parce que c'était trop ouvert.
Là où ça pose problème, en fait, et t'as raison de le signaler, hein, c'est parce qu'on a lu des trucs, effectivement, sur le net en mode, ah là là, Netflix pouvait lire vos messages privés, Spotify aussi. Bullshit. Ok, super, c'est pas du tout ça. Comme tu dis, ils ont accès à l'API. Là où ça pose problème, c'est qu'en fait, normalement, encore une fois, Facebook est supposé demander ton accord quand tu veux partager des données, que ce soit via l'API ou ailleurs.
Bien sûr.
Et que, dans ce cas-là, bah, ils l'ont pas fait. Et c'est justement le côté secret de ces accords avec, avec les sociétés tech qui pose problème dans le sens où, bah, Facebook, une fois de plus, utilise vos données sans vous demander votre avis, ce qui est quand même un peu le truc qu'on lui reproche depuis des années, et c'est effectivement là que ça pose problème. Maintenant, clairement, il y a des papiers sensationnalistes qui vont aller essayer de faire trembler la ménagère pour, en lui disant attention, arrête d'utiliser Spotify parce que sinon ils vont lire toute ta correspondance privée avec ton amant. c'est pas du tout ça, hein, donc effectivement, tu faisais bien de le préciser.
Non, mais en revanche, il y a eu des edge cases, et pourquoi il y a des trucs qui ont fait que les gens ont commencé à creuser tous ces trucs-là, c'est il y a un des exemples que j'adore, parce que celui pour le coup, il est un peu freaky. C'est une nana qui laisse une review sur un bouquin indépendant sur Amazon et Amazon lui remet dans les dents en disant bah non, vous pouvez pas, vous avez pas le droit de commenter ce bouquin. Bah, la meuf, elle fait bah pourquoi j'aurais pas le droit de commenter ce bouquin, c'est pas moi qui l'écris quand même. Oui, mais vous connaissez l'auteur. Ah bah non, je connais pas l'auteur, non, pas du tout. Et en fait, elle était au même truc de livre indé que la nana en question, que l'autre auteur ou autrice, je ne sais plus, j'ai plus exactement les détails en tête, mais en gros, en ayant les infos de Facebook, eux avaient fait un relationnel qui était faux en fait. Ils ont cru en fait que c'était elle qui était à ce truc là, pardon, et du coup les mecs d'Amazon avaient dit bah non, vous la connaissez, nous en essayant de protéger les reviews pour donner plus de sens aux reviews, ils sont devenus Big Brother sur ce coup là et donc du coup, mais complètement à côté de la plaque. Donc c'est des trucs qui, déjà, ils n'auraient pas dû avoir les infos, parce que là pour le coup c'est une entorse à la vie privée de ouf. Et derrière, les mecs, en plus, quand ils ont dû justifier, c'était un petit peu compliqué, du coup, puisqu'ils n'étaient pas censés avoir accès à ces trucs-là. Donc, bref, il y a des abus, mais il y a aussi des abus dans la façon dont c'est présenté dans plein d'articles. Donc, attendez que la poussière retombe, il va falloir faire le tri.
Ouais, et on vous linkera donc tous les papiers qui vont bien pour vous faire votre avis par vous-même. Et tout ce qu'on rappelle, c'est que ça tombe plutôt mal pour Facebook, en fait. Question de timing, c'est pas vraiment idéal.
Non, au niveau marketing, c'est chaud, là.
Ouais, c'est tendu. On continue dans la tech avec une news plutôt cool du côté de Windows 10. Enfin, moi, je trouve ça plutôt sympa.
Bah, carrément. Donc, ça, c'est une petite news qui est tombée cette semaine, si je dis pas de bêtises, avec une annonce comme quoi Windows 10 va proposer une sandbox, donc un mini Windows directement à l'intérieur, virtualisé, donc à l'intérieur de votre Windows à vous, pour tester toutes les saloperies suspectes. Si vous avez un soft que vous avez récupéré sur internet, sur des sites que vous ne voulez pas dévoiler, hein, chacun fait ce qu'il veut dans son bureau, et que vous dites il y a peut-être un virus dans cette saloperie, vous pouvez le dézipper par exemple, le décompresser dans une sandbox et le lancer là dedans, et si jamais ça pourrit tout ce Windows là, vous en foutez, puisque quand vous allez le fermer, tout va disparaître, ce qui est une excellente nouvelle. Ce qui est moins bon pour ce truc là, c'est qu'en fait ça sera dispo que sur la version pro ou la version entreprise, puisque la virtualisation n'est pas activée dans la version familiale a priori, et du coup c'est carotte pour vous, alors que j'ai envie de dire ça aurait été bien pratique.
Ouais, mais cela dit,
savent pas que ça existe.
Exactement ce que j'allais dire. Jusqu'ici, nous, ce qu'on faisait pour faire ce genre de test, c'est qu'on créait une machine virtuelle tout simplement sur laquelle on installait un Windows 10, donc c'était un peu laborieux. Ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle, parce que si c'est directement intégré dans l'OS, c'est cool, mais je pense pas que ça va changer les habitudes du du consommateur lambda et qui va tout à coup se mettre à tester les trucs qu'il télécharge sur les sites de piratage.
Ça serait.
Donc, voilà. Et puis donc tu voulais parler du fait qu'il y a aussi un tuto a priori pour ceux qui voudraient ne pas attendre la mise à jour.
Voilà, donc c'est un petit tuto chez nos amis de AutoGeek qui sera linké dans le billet qui accompagne le podcast où vous aurez les infos pour récupérer la version Insider où la fonction est déjà activée. Donc si vous avez des besoins urgents, ça peut être pratique.
Et on va parler de ton nouveau meilleur ami puisque apparemment il y a eu des changements suite à notre papier sur la Freebox Delta.
Et check Xavier. Donc résumé des épisodes précédents, je balance mon papier sur la Freebox Delta où je dis que quand même ils auraient pu avoir un peu plus de jugeote et pas sortir une usine à gaz.
Poliment, oui.
Poliment. Mais non, j'étais hyper poli dans le papier.
C'est vrai.
C'est vrai, j'aurais pu être bien plus trash comme vous me connaissez. J'ai été super poli et j'ai reçu un DM de Xavier Niel, le vrai, oui, Xavier, bonjour, si tu nous écoutes, qui me demandait mon adresse mail pour m'envoyer un mail, pour me dire quoi ? Pour me dire, bah écoutez, on a lu avec intérêt, j'ai lu avec intérêt ce papier, et effectivement, c'était pas complètement con, hein. Bon, il l'a pas dit dans ces mots-là, ok, d'accord. Mais en gros, il a bien compris que j'étais pas le seul à dire qu'il y avait beaucoup trop de trucs dans cette offre et que c'était beaucoup trop cher et que c'est pas vraiment la cible historique de Free et qu'on voyait pas bien où ils allaient. Résultat des courses, il y a maintenant, et donc en fait, il finissait son mail en disant il y aura bientôt une nouvelle offre et je voulais vous faire savoir que vous n'êtes pas étranger à cette décision et tout. J'étais là, genre, petit frottage de torse. Voilà, donc moi j'attendais l'offre Freebox Delta Geekzone. Bon, alors elle s'appelle pas comme ça, je suis hyper déçu.
C'est Xavier, si tu nous écoutes pour la prochaine, c'est encore jouable. Hein.
C'est nous, j'ai des idées, appelle-moi, il n'y a pas de souci. Je te ferai une petite facture.
Freebox. On va faire un t-shirt.
Faut voir. Donc il y a maintenant une offre Freebox Delta S. Alors c'est quoi ? C'est hyper con. C'est qu'en fait ils ont viré tout le gras, à savoir le player de Vialet dont on n'avait pas dit que du bien, qui d'ailleurs vient d'être testé par les numériques et comme prévu au niveau sonore, c'est pas magique. Hein. Bah et comme prévu aussi, il faut l'installer bien correctement dans votre salon, c'est-à-dire à peu près là où personne peut le mettre. Donc c'était vraiment pas une bonne idée. Bref, ça c'est dégagé. L'offre Netflix dégage, etc. Donc on se retrouve avec une offre à 40€. 40€, ça reste un peu cher, mais c'est pour vous proposer donc la box serveur qui, elle, reste là avec le NAS, etc. Et surtout la connexion à 10 gigas qui vous servira donc à rien, hein, faut être clair. Donc, parce que moi, j'ai une connexion à giga, je la sature toujours pas. Donc voilà, il y a quand même un gros effet marketing, un gros effet d'annonce autour de cette offre. Alors oui, c'est mieux, on va dire que c'est moins pire. Moi, j'aurais aimé qu'ils balancent une offre avec la Freebox One, par exemple, avec moins de service et avec un prix un peu plus agressif. La problématique, c'est que si tu bases ton marketing sur le 10 gigabit, t'es emmerdé puisque la Freebox One ne fait pas le 10 giga. Ouais. Donc, ils sont un peu coincés. Ils n'ont pas le matos qui va bien. Moi, je continue de penser qu'ils auraient dû prévoir une Freebox simple serveur de base avec plein de services niveau software pour les geeks, une bonne connexion et un prix hyper agressif. Mais évidemment, c'est pas ce que veulent les actionnaires, j'imagine. Donc, ça va être compliqué. Alors, on garde des options en plus qui vous serviront certainement à rien sur la Freebox Delta S, mais qui sont en option du coup, genre le pack sécurité qui est toujours accessible mais qui n'est plus refourgué avec la machine que vous en vouliez ou non. Donc bon, c'est un pas dans la bonne direction,
c'est clair.
On peut mieux faire, mais on en est quand même à la 6e offre depuis le départ. Donc je pense que la prochaine fois qu'ils veulent lancer une box qu'on a attendu pendant 8 ans, s'ils pouvaient s'y prendre un peu mieux en amont, je pense qu'ils gagneraient quand même pas mal de temps.
Hein. Ouais, qu'ils nous appellent, hein. on en parle autour d'une bière et puis on lui dira ce qu'on veut et puis voilà quoi.
Moi je fais du consulting la journée, ça peut s'arranger si vous avez des problèmes de gilets jaunes. Non, pardon.
Et on reste sur la Freebox pour terminer avec un petit souci, puisqu'apparemment ils sont dans le viseur de UFC Que Choisir.
T'as vu comment je rebondis bim bim pour finir le truc là ?
Ouais.
Oui, parce que UFC Que Choisir, les 6 offres en question, ils ont dit c'est hyper rigolo, mais dites donc, c'est quand même pas très clair votre histoire. Et puis vos frais de résiliation, ça couvre quoi ? C'est pas expliqué. Et puis vos frais de clôture, ça recouvre pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc du coup, ils sont assignés en demeure, donne-nous des explications, s'il te plaît. Pourquoi tu veux notre argent ? Donc, je pense qu'il va y avoir des changements ou en tout cas des précisions sur pourquoi ils veulent autant de fric sur les frais de mise en service et les frais de clôture, où il n'y a quand même pas grand-chose à faire, faut pas déconner. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous, c'est une moins bonne nouvelle pour Free, qui décidément aurait vraiment dû travailler ses offres en amont. Tiens, c'est marrant, je crois que j'ai déjà dit ça. Donc, du coup, j'attends de voir ce que ça va donner, mais généralement, quand il s'attaque à quelqu'un, il y a quand même des clarifications qui sont faites et c'est bien que ces gens existent.
Et c'est la fin de ce 71e, 71e pour nos amis belges épisode de Torréfaction. T'as vu, je l'ai dit.
Ah putain, le mec, depuis qu'il est reparti, le nationalisme, le populisme,
le chauvinisme.
Ça va être compliqué.
C'est la fin donc de ce 71e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection d'actu. Et puis d'ici là, bah moi je vais repartir à la recherche d'un appart. Et toi, tu vas faire quoi ce week-end?
Bah écoute, je vais râler sur Brawler Stars, je pense, en attendant que les chargements se terminent dans Destiny 2. Je pense que ça va être ça ma vie. Voilà, c'est la vie que j'ai choisie.
Et puis sinon, joyeux Noël à tout le monde, hein, puisqu'on s'entendra plus d'ici là. C'est quoi? Exact. C'est lundi soir, le réveillon, ouais, c'est ça.
Exact. Hein. Et c'est maintenant que vous réalisez qu'il vous manque un cadeau. Et
exact.
Oui. Exactement. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Et salut, on y va là, j'ai pas le temps.
Salut, ciao.
Ciao. Battle. Ah bah super, génial, bravo.
Ah bah ça commence bien.
Attends,
parce c'est que j'ai. Battle Royale.
Non, Clash. Ouais. Clash of the Clans. Je l'ai jamais dans le bon ordre ce putain de titre en fait. Clash of Clans, voilà. C'est ça. C'est les mecs de Clash Royale, c'est les mecs de Cash of...
Tu peux y arriver, tu peux le faire.
Ah putain. C'est les mecs de Clash Royale, les mecs de Clash of Clans.
Ouais, alors là, ça va pas passer parce qu'on sent que t'insistes à mort.
Ah ouais, voilà. C'est les mecs de Clash Royale, mais va te faire enculer, c'est un mot de merde.
Tu veux qu'on recommence?
Ouais, non, non.
Ah bah ça fera un bon bêtisier, tiens, quand
c'est
pas
ça.
Souvent.
Ah putain, je te jure.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités, le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.